Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Et oui, ça y est, c'est le retour des lives sur Clubhouse tous les vendredis à 18h. Et là, vous allez avoir le premier replay de ces lives qui sont absolument passionnants. Donc n'hésitez pas à venir sur Clubhouse à 18h pour participer à ces débats. Pour ce premier-là, nous allons parler de bien-être au travail dès la rentrée. Comment améliorer notre bien-être au travail? Et comme vous le verrez, il y a des débats avec des coachs, avec des spécialistes des ressources humaines et surtout avec des gens, des auditeurs qui viennent poser leurs questions ou donner leurs commentaires. Bref, j'espère que vous aimerez bien ce replay et n'hésitez pas, la semaine prochaine, 18h sur Clubhouse, Happy Work, le live. Bonne écoute. Alors les amis, bienvenue sur Happy Work sur Clubhouse. Donc c'est le retour après 15 jours d'absence. Et oui, il y en a qui ont pris des vacances. C'est pas mal quand même les vacances. Et puisqu'on va parler de bien-être, ça semble plutôt pas mal d'aborder ce sujet. Alors même si Happy Work, c'est le podcast, ne parle en théorie que de bien-être, on a déjà abordé beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Mais là, on va vraiment spécifiquement parler de bien-être. Et pourquoi? Alors, cher Benoît et cher Laurane, moi, il y a un chiffre qui m'a effrayé avant les vacances. Donc, je parle d'une étude qui a été sortie quelques semaines avant le mois de juillet, qui disait que 45% des salariés français étaient en détresse psychologique. Alors, le mot est quand même phénoménal, il est énorme, 45%. Et je me suis dit, mais ok, soit il va y avoir un miracle pendant les vacances et on va repartir du bon pied, soit il va falloir qu'on change quelque chose littéralement pour changer ça. Alors, il est vrai que depuis le mois de mars 2020, donc le premier confinement, on ne va pas se mentir, on s'en est un petit peu pris plein la tronche. On a découvert le télétravail à marche forcée, on a découvert plein de trucs qui n'ont pas forcément été agréables. Il y a eu la crise, il y a le chômage partiel, du chômage, l'angoisse avec les vaccins, l'angoisse avec le pass sanitaire. Enfin, il y a plein de choses qui font que si on ne change pas quoi que ce soit, il n'y a pas de raison objective pour que ces 45% de personnes, de salariés qui sont en détresse psychologique, bah, que ce pourcentage se réduise. Donc l'idée de cette room, bah, c'est d'échanger nos petits trucs pour la rentrée, pour savoir comment est-ce qu'on peut booster notre bien-être au travail et comment l'optimiser. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs que l'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a des anciennes choses que l'on peut continuer à faire? Moi, je vais vous en donner un petit truc que j'utilisais déjà avant. Et après, cher Benoît, cher Laurane, et puis alors vous toutes et tous...
Ben, moi, je pense, en tout cas, là, je vais parler de quelque chose qui est assez personnel, que je faisais déjà avant et que je continue
maintenant
quotidiennement. En fait, c'est de la méditation et du yoga du visage. En fait, je prends 10 minutes de mon temps, enfin 20 minutes, 10 minutes pour méditer. Et quand je dis méditer, c'est que je me focus en fait sur ma respiration pour éviter de penser à quoi que ce soit. C'est un exercice qui est franchement pas simple, toujours, mais qui fait vraiment du bien sur le
mon cher Benoît, j'espère
court
que tu
et à moyen terme.
Pardonnera pour ma galanterie, mais je vais poser la question à Laurane. Est-ce qu'il y a des changements
parce que ça pour le bien-être au travail? Ça me détend aussi, j'ai envie de dire que les deux sont liés. Et après, sur un plan extérieur, vis-à-vis des clients que je peux avoir, je ressens, et c'est pour ça que ce que tu viens de dire, malheureusement, n'est pas étonnant. Puis de toute manière, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a de plus en plus de détresse, oui, complètement, et je pense que c'est intimement lié aussi, peut-être qu'on l'abordera un petit peu plus tard, à la question de sens, en fait. Et cette crise a révélé pour beaucoup ce point-là, et on est certainement, ou pas, je ne sais pas, mais peut-être de plus en plus, en tout cas, à s'interroger sur la notion de sens qu'on peut avoir dans notre travail.
Oui, sur le pourquoi on travaille, et c'est un petit côté angoissant de se poser la question, mais mince, pourquoi on fait tout ça? C'est vrai que cette question-là, elle est très présente. Alors, on va revenir dessus, Laurane, très certainement. Benoît, toi, est-ce que, pour commencer cette room, il y a quelque chose qui te saute à l'esprit en te disant, bon, ça, pour le bien-être, il faut impérativement y penser?
J'essaie déjà d'être dans un mode de bien-être dans ma vie personnelle. Parce que si ça va mal dans ma vie perso, forcément, le travail s'en ressent. Ça, c'est ma première règle, c'est essayer d'avoir cet équilibre-là, en tout cas, toujours orienter au maximum dans ma vie personnelle des choses qui me font plaisir, qui font plaisir aux gens que j'aime et avec qui je vis, et ça, ça me booste derrière. Après, effectivement, tes rituels, je comprends, c'est quelque chose qui peut donner des jalons et qui peut permettre de se dire, bon, au moins ce moment-là, je le maîtrise et je me l'accorde pour moi-même, parce que tout simplement, dans le travail, on ne maîtrise pas tout, on est orienté vers les autres la plupart du temps, notamment quand on a des métiers de commercial ou en rapport avec de la clientèle, c'est le client un peu qui dicte et qui donne le pouls. Mais je pense que ouais, c'est une bonne technique, c'est s'accorder un moment à soi, tout en sachant que c'est quelque chose qui rebooste ou redonne du moral. Et pour en revenir à ton chiffre, effectivement, je pense qu'on vit une période un peu compliquée, et ce qui est stressant, je pense, pour les gens, c'est la non-visibilité. Peut-être pas le pourquoi est-ce que je fais ça, mais ça peut être stressant et c'est une base, bien sûr, mais c'est quel est l'avenir et comment est-ce que je l'envisage. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été rebattues, il y a des décisions qui peuvent être complètement folles pour certaines personnes vis-à-vis d'autres, mais je pense que c'est cette indécision ou cette incapacité à prendre des décisions qui peuvent entraîner du moyen ou du long terme qui est vraiment stressant. La non-projection est très stressante.
Mais ça, alors je te rejoins, Benoît, c'est le côté on ne sait pas de quoi va être fait demain, que ça soit personnel ou professionnel, c'est très angoissant. Mais moi, j'ai le sentiment quand même qu'on est rentré dans une période, sans rentrer dans le débat des vaccins, mais malgré tout, si on se rappelle où on en était il y a un an en métropole, parce que petite pensée pour les amis des dom-tom qui sont un peu en galère avec les hôpitaux, mais on est quand même beaucoup plus serein dans cette rentrée, non ? Enfin, il me semble. Alors, on va accueillir Emmanuel. Salut Emmanuel, comment tu vas bien ? Tu es en retard, Emmanuel. Je plaisante. Bienvenue. Merci. Comment tu vas ?
Hello, ça va, merci. Ça va bien. Ça
bon,
va.
Alors on est en train de parler de bien-être et je posais la question alors à Laurane par exemple ou à Benoît ou à toi Emmanuel, est-ce que justement le fait qu'on ait un peu plus de perspective, notamment d'un point de vue sanitaire, ça ne va pas nous permettre d'avoir un mal-être réduit, parce que j'allais dire un bien-être amélioré, j'en suis presque à dire un mal-être réduit, parce qu'on sait un peu plus ce dont demain va être fait. Je vous rappelle qu'en août 2020, donc il y a un an, on le voyait bien venir, le reconfinement en métropole. Là, on n'a pas ça. Donc je me dis que les gens, je parle beaucoup avec des salariés qui me disent, nous, on va revenir en partiel, en présentiel. Enfin, on sent qu'il y a un truc qui est en train de revenir. Est-ce que vous le percevez ou pas du tout, Emmanuel ?
Moi, je sens que les gens sont un peu inquiets quand même de revenir au travail. C'est bizarre, hein, d'ailleurs. Je trouve ça, pour partager avec certaines personnes, certains sont inquiets de revenir au bureau, en fait, parce que je pense qu'ils se sont installés dans un bien-être de télétravail. Quelque part, il n'y a pas que du mauvais dans le télétravail.
Mais c'est vachement paradoxal, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont beaucoup plaints du télétravail à plein temps.
Mais je pense que c'est partagé. Ouais, moi, ce qui me concerne, si je vais bientôt retourner au travail, parce que là, je suis en arrêt forcé, mais j'aimerais bien avoir ce partage entre 2 jours de télétravail, mais 3 jours en présentiel, parce que la vie d'équipe me manque.
Mais je crois que, alors je ne sais pas, peut-être Laurane, toi avec tes clients, parce que Laurane, tu es coach, est-ce que tes clients, tu perçois certains qui s'angoissent de revenir, ou alors au contraire, le côté travail hybride est devenu quelque chose de, un, d'acquis, et deux, de plutôt plaisant ?
Alors il y en a qui, dans certains de mes clients, malheureusement, hiérarchie, pardon, qui n'a pas du tout respecté le télétravail, même sur les précédents mois, ce qui fait que ces personnes-là, elles devaient aller au travail tout le temps. Donc ça déjà, c'était un vrai problème. Pour ceux qui le respectent, un retour en présentiel 100% n'est absolument pas souhaité. Alors, j'ai pas non plus 10 000 clients, hein, mais en tout cas, dans l'échantillon que j'ai, ça, c'est vraiment le dénominateur commun. Et comme vient de le dire Emmanuel, un split entre les deux, en revanche, est très bien accueilli. Et de la part aussi des dirigeants.
Ben, en fait, il y a une étude qui vient de sortir, 83% des salariés, alors français, je sais qu'on n'est pas que des Français dans cette room, 83% des salariés français souhaitent avoir entre une et trois journées de télétravail. Donc la notion même de revenir en 100% présentiel, je crois que ça c'est quelque chose qui est derrière nous. Et je le disais avant la pandémie, le télétravail fait partie du bien-être au travail. Maintenant, c'est la manière dont on l'intègre dans sa vie. Toi, Benoît, tu l'as intégré comment, le télétravail? Ou est-ce que dans ton entourage, tu vois des gens qui sont contents et qui intègrent leur télétravail dans leur bien-être? Ou c'est encore perçu parfois comme une contrainte?
Alors, moi, je n'ai pas été en télétravail. Le premier confinement, mais comme tout le monde, j'étais à la maison et c'était arrêt total. Le deuxième, je n'ai pas eu de télétravail, je travaillais en présentiel. Par contre, ma compagne qui travaille dans le domaine universitaire sur Toulouse était en télétravail. Au début, ça a été un peu compliqué pour elle de le vivre parce qu'il lui manquait cette présence d'équipe. Et puis finalement, en fait, maintenant, c'est devenu un peu la règle. Elle va être en télétravail, ça a été voté au niveau de l'assemblée universitaire. Tout le personnel administratif qui peut se le permettre, évidemment, mais ils auront, je crois qu'elle va passer à 2 jours de télétravail par semaine. Donc quelque part, ben, elle a sa petite routine, elle a un poste qui est aménagé maintenant à la maison. Ils lui ont acheté le matériel pour pouvoir travailler à distance parce qu'elle travaille sur la nuit dans le monde. Et donc, elle, ça lui convient, c'est un équilibre qu'elle trouve assez sympa. Elle voit un peu l'équipe, mais en même temps, elle reste à la maison. Par contre, la productivité à la maison est largement supérieure à la productivité au bureau. C'est ça qui est assez rigolo. Et c'est, je pense, ce qui a fait pencher dans la balance pas mal de patrons. Ils se sont aperçus, peut-être parce qu'ils avaient des idées préconçues, que le télétravail, c'était un peu, ouais, à la maison, je sens, ils foutent rien. Mais pas du tout, on travaille beaucoup plus à la maison en productivité parce qu'il n'y a pas la pause café avec les collègues, parce qu'il n'y a pas la discussion juste après manger et compagnie. Mais en fait, on est beaucoup plus productif, en fait. Voilà.
Mais ça, je suis d'accord. Alors, je vais donner la parole à Léna tout de suite qui vient d'arriver, mais je voulais rappeler un truc que tu viens de dire, Benoît, qui est vachement important. On a mal vécu notre télétravail au début, un, parce qu'il était imposé, et deux, bien souvent, parce qu'on n'avait pas le bon matériel. On était installé juste avec des petits ordinateurs portables sans forcément un grand écran, on n'avait pas forcément la bonne chaise, on se baladait dans toute la maison. Je crois qu'il y a des bonnes habitudes qu'on a commencé à prendre. Alors, on pourra peut-être d'ailleurs pendant cette room reprendre quelques éléments de ces bonnes habitudes à prendre et à garder pour optimiser son bien-être au travail. Léna, donc bienvenue à toi. Donc, tu fais partie de l'équipe de coach de Happy Work. C'est quoi ton constat sur le bien-être avant cette rentrée? Est-ce que tu penses qu'on repart du bon pied ou est-ce que tu es inquiète par rapport à tes clients avec qui tu échanges?
Hello, tout d'abord, pardon pour ce retard. Je prends deux
cours. Tu seras fouettée, Léna.
J'espère bien.
Oh, bah bravo.
Moi, j'ai envie d'être optimiste et pourtant, je suis plutôt inquiète. J'ai pas le sentiment, et je m'inclus dedans, que cet été, les gens ont pu se ressourcer comme ils l'auraient souhaité, vu le contexte, etc. Et je vois chez beaucoup de mes clients aussi de l'inquiétude par rapport au fait d'organiser le travail avec des équipes hybrides, le retour sur site, etc. Je vois que les gens se posent encore beaucoup de questions et il va falloir les aider à trouver ces réponses-là.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, les gens n'ont pas eu le temps de se ressourcer. Alors moi j'ai passé pas mal de mon été à Paris, donc je vois bien avec le côté, on a eu un peu l'impression, juillet-août, de vivre au mois d'octobre. Mais mis à part ça, pourquoi les gens n'ont pas eu l'occasion de se ressourcer? D'où vient ce sentiment, Léna?
Alors, par rapport au contexte sanitaire, moi, j'ai vu que les gens avaient beaucoup de stress, hein, notamment par rapport à la vaccination, etc., les questions de passe sanitaire. Comme tu dis, le fait de vivre un été au mois d'octobre, et les questions de quel bureau est-ce qu'on va retrouver. Je vois chez certains de mes clients se poser la question, est-ce qu'on passe au flex office, est-ce qu'on passe au total home office, combien de jours de télétravail, etc. Ces questions-là se posaient encore, et parfois même des réorganisations dans les services. Donc voilà, pas mal de questions qui ont été soulevées et je ne sais pas si tout le monde a déjà trouvé les bonnes réponses.
Ouais, je comprends. Alors, dans l'audience, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez monter pour participer, pour donner votre point de vue, si vous avez aussi des solutions pour améliorer le bien-être. Parce que moi, honnêtement, je suis pas surpris de ce que tu dis, Léna, parce qu'il y a des gens, j'entends des gens le dire, mais moi, je fais partie un petit peu des gens un peu plus optimistes où je me rappelle de la rentrée d'il y a 2 ans, donc avant la pandémie, ou encore pire, la rentrée d'il y a 1 an, où j'ai l'impression qu'on a quand même vachement de raisons de se dire, mais on va connaître une saison 2021-2022 qui va être vachement bien. Il y a 2 ans, le télétravail, on n'en parlait pas. Il y a plein d'entreprises, on n'en parlait pas. Là, il y a plus de 80% des entreprises qui vont mettre en place du télétravail. La pandémie, je ne dis pas qu'elle est finie. Bien sûr qu'il peut y avoir un autre variant et compagnie, mais en métropole, en tout cas aujourd'hui, on se dit ça va plutôt très très bien par rapport à ce qu'on a connu. Le mode hybride, c'est vrai qu'on ne le maîtrise pas totalement, mais ça fait quand même 1 an qu'on s'entraîne, donc on commence à mieux maîtriser. J'aimerais bien qu'on trouve une solution, justement, si jamais il y a des personnes dans l'audience qui connaissent cette angoisse, pour la lever. Alors, il y a des éléments factuels, selon moi. Si on regarde le taux d'occupation dans les hôpitaux, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est pas le stress en hôpital. Aidez-moi, les amis, avec le petit point vert, la charge hospitalière. Non, vous ne voulez pas m'aider, vous êtes méchant.
Non, là, tu es seul.
Je suis seul. Oh, les méchants. Non, mais vous savez, c'est dans les services de réa, la tension hospitalière, voilà, la tension hospitalière est très, très loin du niveau qu'on connaissait en août dernier. Donc, on a quand même pas mal de raisons. Et individuellement, parce que quand on parle de bien-être, il y a certes le bien-être collectif, mais c'est surtout le bien-être individuel dont on va parler. En cette rentrée, je trouve que le niveau de stress est quand même nettement inférieur. Donc maintenant, comment est-ce que on peut optimiser ça? Alors moi, j'ai un petit conseil à donner, alors qui va être peut-être un petit peu cynique. Arrêtez de regarder les informations, par exemple. Ça peut être pas mal. Arrêtez de regarder certaines chaînes d'infos qui vont forcément regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Oui, ouais. Donc est-ce qu'une des source du bien-être au travail, c'est pas de regarder le verre à moitié plein, de se dire « Ok, regardons tout ce par quoi on est passé depuis 1 an et demi. » Enfin, les amis, si on fait un petit retour en arrière, on a quand même passé des trucs incroyablement difficiles, y compris professionnellement. J'imagine que dans l'audience, il y en a plein qui ont connu le chômage partiel, peut-être certains qui ont même perdu leur taf. On a quand même pas mal de voyants au vert et déjà regarder individuellement le parcours qu'on a fait, c'est peut-être une bonne solution. Laurent, est-ce que tu donnes par exemple comme conseil qui peut sembler trivial aux gens, apprenez à regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide?
Oui, absolument. Après, tout dépend de la problématique et j'ai envie de te dire, il faut aussi... on ne peut pas regarder que dans un sens. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi, si la personne qui est en face de moi voit le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est mon rôle, moi, va être aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il le voit à moitié vide.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Laurent. Est-ce qu'on n'a pas tendance en France à adorer voir le verre à moitié vide?
Ça, oui, si, bien sûr. Je te rejoins.
Mais alors, c'est quoi ton truc pour faire changer les gens?
Mon truc, c'est que je ne peux pas illégitimer, si tu veux, leur sensation. Donc, il faut que je leur accorde une écoute. Et après, voir le verre à moitié plein, bien sûr, ça, je ne peux pas aller à l'encontre de ça parce que tel est mon dicton. Mais j'aimerais bien revenir là sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, à savoir... Il y a 2 ans, le télétravail, on n'en parlait pas dans les sociétés, ce qui est archi vrai. Aujourd'hui, on en parle. Et là, j'ai envie de dire un oui mais, dans le sens où en fait, tout part de l'intention. Et on sait que l'intention de la mise en place du télétravail a été faite quand même sous une forme contraignante. Et c'est ce que tu as dit aussi. Et ça reste dans l'esprit des gens. On n'a pas été libre par rapport à ça. Et il y a des séquelles. Et puis, de toute manière, on est encore en pleine pandémie, quelque part. Donc, ça reste compliqué. Malgré un certain optimisme, c'est vrai que ça reste compliqué. Néanmoins, si on continue toujours à voir le verre à moitié vide, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est sûr.
Alors, nous accueillons... Merci beaucoup, Laura. Nous accueillons Sophie sur le stage. Sophie, alors, si tu es montée, c'est pour nous dire quelque chose. Est-ce que c'est pour nous parler du verre à moitié vide, du verre à moitié plein ou pour nous poser une question?
C'est les deux premières réponses. C'est l'échange que tu as eu avec Laurane m'a fait penser que peut-être vous aimeriez entendre la manière dont je dis les choses, moi, habituellement. Parce que j'en parle aussi du verre à moitié vide ou à moitié plein. Souvent, lorsque les gens viennent nous voir, je suis coach aussi, hein, souvent, lorsque les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils voient le verre à moitié vide et qu'ils ne savent pas comment le remplir et qu'ils veulent absolument le remplir. Et je suis entièrement d'accord avec Laurane. Moi non plus, je ne nie pas du tout que le verre est à moitié vide. Non seulement il ne s'agit surtout pas de disqualifier ce qu'ils ressentent, mais c'est souvent vrai que le verre est à moitié vide et ça ne sert à rien de le nier. La seule chose, c'est que je leur propose de voir qu'il est aussi à moitié plein et que c'est le même verre.
C'est intéressant, mais est-ce que, alors je vais être un peu provocateur. Alors là, on a toute une bande de coachs, Emmanuel et Benoît, on est entouré par trois coachs, donc attention à ce que je vais dire. Est-ce qu'on a pas, vous n'avez pas l'impression parfois, alors je vais poser la question à la troisième coach, Léna, que parfois on est un peu trop dans, on s'écoute, mais dans le sens négatif du terme, où depuis mars 2020, on est passé par des trucs tellement durs, que finalement, on n'arrive même plus à considérer que on est plutôt dans une période objectivement qui est génialissime. Et je pense encore une fois au télétravail. On s'est battu pour le télétravail pendant des années. Et moi, je fais partie des gens qui se battaient pour obtenir ça en entreprise. On n'y arrivait pas. Et là, on est passé de 16% d'entreprises. Là, je parle des grandes entreprises. Hein. Avant la pandémie, 16% des entreprises qui avaient des accords de télétravail à bientôt 80%. Donc, je ne vois même plus le verre à moitié vide. Léna, c'est quoi ton regard par rapport à ce que vient de dire Sophie? Et n'hésitez pas, les petits points verts et tous ceux qui sont sur le stage, si vous voulez prendre la parole, à claquer du micro, je vous la donne. Donc, Léna et après Emmanuel.
Alors, moi, je trouve que s'écouter, c'est bien. Et je rejoins Laurane sur le fait qu'on ne peut pas disqualifier ou illégitimer ce que les gens ressentent. Moi, j'oriente plus mes clients vers, ces bateaux encore, ce que je vais dire, vers la recherche de sens. Je pense que le bien-être se trouve là. Et là, alors, je ne sais pas si je vais mettre tout le monde d'accord ou pas, mais je pense que les gens se sont rendus compte que pour être bien au travail, il faut aussi trouver un équilibre et de l'épanouissement ailleurs. Parce que ces dernières années, on nous a beaucoup vendu le fait que la valeur travail était importante et que c'est là où qu'on trouvait de l'épanouissement. Et les gens se sont rendus compte qu'ils peuvent avoir cette balance-là. Et je pense que le fait d'avoir du télétravail qui a été mis en place, les gens ont réalisé qu'ils pouvaient avoir des passions qu'ils pouvaient développer à côté, etc. Et que cela renforçait parfois leur sentiment de bien-être au travail et qu'ils pouvaient retrouver du sens de cette façon.
J'adore ce que tu viens de dire, Léa, parce que c'est un truc que je rappelle souvent. Le bien-être au travail, paradoxalement, dépend vachement du bien-être que l'on connaît quand nous ne sommes pas au travail. Ce qui est tout le paradoxe de la chose, merci de le rappeler. Alors, Emmanuel, je vais te donner la parole et après on accueillera Simba sur le stage qui vient de monter. Donc Emmanuel, c'est à toi.
Moi, je voulais juste dire une petite phrase. Le plus beau des cadeaux que quelqu'un puisse vous faire n'est pas de vous aimer, mais de vous apprendre à vous aimer, de Jacques Salomé.
Jolie phrase, voilà. Mais c'est pas facile comme mission quand même. Hein.
Non, c'est pas facile. Alors, pourquoi je dis ça? En fait, moi, je vais pas raconter ma vie, mais je suis en arrêt maladie depuis un an. J'ai fêté mes un an d'arrêt maladie. C'est vraiment une contrainte, quoi. C'est vraiment une contrainte pour moi. Et je me suis dit, mais le verre à moitié vide, ça fait chier. J'ai perdu 50% de mon salaire. Bon, ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est en fait, depuis que je suis en arrêt, j'écris. Et j'écris sur LinkedIn, hein, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Et voilà, ça me détend et c'est mon verre à moitié plein. Voilà, la vie est belle et j'ai envie de diffuser autour de moi, même si je n'ai pas la prétention d'être un coach ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de diffuser à travers mes posts le bien-être au travail, la bienveillance. C'est vrai que des fois, je te tague, Gaël, sur certains de mes posts. Mais voilà, ça, c'est mon verre à moitié plein. C'est la vie est belle et il faut être bienveillant les uns envers les autres.
Il est vachement important ton message, Emmanuel. Alors d'ailleurs, j'engage les personnes qui sont en train d'écouter à suivre Emmanuel sur LinkedIn et d'ailleurs toutes les personnes qui sont sur le stage. Mais c'est vrai que optimiser ce que l'on a, c'est déjà le premier pas vers le bien-être. Au lieu de râler sur ce qu'on n'a pas, c'est vraiment un joli message. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on va accueillir Simba sur le stage et n'hésitez pas aussi, vous, à monter si vous voulez témoigner ou nous poser des questions. Simba, comment vas-tu bien ?
Ça va super bien. Bonjour Gaël, bonjour à tout le monde, bonjour Léna. Alors, je me retrouve dans une position un petit peu indélicate parce que Léna a dit 100% de ce que je voulais dire. Donc, c'est toujours le problème de passer après
Léna. Ah, les grands esprits.
On se retrouve finalement avec énormément d'éléments qui ont déjà été partagés. Bon, après, en substance, ce que je voulais simplement partager avec vous, c'était une réflexion peut-être sur le travail en lui-même. Alors, effectivement, moi, je suis aussi un éternel et un grand optimiste. Mais je pense qu'il est important, et la période et la séquence qu'on a pu vivre cette dernière année ou cette année et demie, nous permet justement de mettre en perspective l'importance du travail et l'importance de l'équilibre entre le travail et autre chose que le travail. Aujourd'hui, on est dans une société, je pense, qui prône beaucoup la productivité, la performance, et beaucoup trouvent finalement cette incarnation à travers les performances dans le travail, le rang au niveau du travail.
Mais tu ne trouves pas que ça a reculé, ça, mon cher Simba, avec la pandémie, justement, ce côté performance et compagnie? Moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu revenu là-dessus, non?
En fait, ça rejoint un point qui a été abordé tout à l'heure, à savoir l'intention. L'intention, par exemple, du télétravail. Effectivement, moi, je travaille pour un grand groupe et donc, du coup, on a depuis plusieurs années des accords de télétravail. Et cela a été amplifié évidemment par la pandémie. Donc, dans ces différentes structures, on a la possibilité effectivement de pouvoir en jouir beaucoup plus facilement que dans des structures bien plus réduites. Néanmoins, l'intention des sociétés de façon plus globale tend un peu vers ça, vers cet équilibre qu'il faut essayer de trouver. Mais il y a quand même énormément de résistance à changer justement de modèle, à changer de façon de voir le travail, de changer de façon d'évaluer finalement les collaborateurs également, d'évaluer également l'efficacité au travail et de sortir un petit peu du tout présentéisme et finalement du contrôle omniprésent sur les salariés. Il y a encore énormément de risques. Alors, on avance et c'est un peu l'ambiance, je pense, dans cette room, effectivement, avec le positivisme qui embaume un petit peu tout le monde. On avance effectivement vers quelque chose qui est, à mon sens, bien plus vertueux. Néanmoins, il y a encore des résistances qu'il faut essayer d'outrepasser pour pouvoir atteindre quelque chose qui soit dans un climat de meilleure plénitude pour tout le monde. Mais c'est cette place-là du travail qui est importante, à mon sens. C'est le sens peut-être même qu'on donne au travail dans notre vie actuelle.
Alors Simba, merci pour ta réflexion et je vais être un peu provocateur et je vais demander aux personnes sur le stage de claquer le micro pour répondre à la question que je vais poser. Parce que Simba, tu parlais de résistance et je sens que dans le mot résistance, tu parles plutôt des résistances des managers et des entreprises versus le bien-être, le télétravail, etc. Moi je pense, et c'est là où je pose une petite question provocatrice à toutes les personnes sur le stage, que les premières résistances, c'était nous qui les avions. Quand on a été en télétravail au premier confinement, combien de personnes se mettaient à travailler sur leur ordinateur en buvant leur café le matin à 7h du matin et lâchaient l'ordinateur à 22h ou 23h et ont travaillé comme des fous furieux du fait d'une sorte de sentiment de culpabilité généré par le fait de plus aller au travail et se dire « Oh là là, mais si je ne travaille pas 14 heures par jour, on va penser que je ne fous rien. » Donc, est-ce que, et je pose la question aux personnes sur le stage, coach ou pas coach hein, d'ailleurs, donc claquer le micro, est-ce que la première résistance, ce n'est pas la nôtre? Léna, tu voulais répondre à la question?
Oui, moi j'entends ce que tu dis, donc deux points. Effectivement, j'ai pu remarquer au tout début du confinement des employés qui étaient complètement perdus, et donc il y a eu une résistance au départ par rapport au télétravail, mais je pense que depuis, ils se sont largement habitués et fait à l'idée. D'ailleurs, quand on regarde les études, on voit qu'aujourd'hui, ils sont majoritairement pour, je crois, 2 jours par semaine. Mais moi, je rejoins Simba, en tout cas de ce que j'ai pu constater, si j'ai bien compris son propos, ce sont effectivement les entreprises qui étaient très, très réticentes et qui ont donc mis le télétravail un petit peu sous la contrainte, et les managers aussi qui ont montré quelques résistances parce qu'il a fallu adapter le style de management à ce contexte-là de télétravail et donc manager différemment. Voilà, réapprendre, si j'ai envie de dire, à travailler avec les équipes.
Mais est-ce que le premier bien-être au travail, il ne commence pas par nous-mêmes ? C'est un peu le sens de ma question. Où, est-ce que, puisque je rappelle le chiffre quand même, avant la pause d'été, 45% des salariés se déclaraient en détresse psychologique. Encore une fois, c'est forcément une question provocatrice quand je dis que est-ce que les premiers responsables, ce ne sont pas les salariés eux-mêmes ? Vous connaissez, enfin, si vous lisez mes bouquins, vous savez que je prône plutôt une évolution du management, mais est-ce qu'on n'avait pas une responsabilité ? Laurent, j'ai vu que tu as claqué ton micro.
Ouais, parce que je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où ça part de nous-mêmes absolument, et ça rejoint cette notion de sens que je voulais aborder tout à l'heure. En fait, je pense que aujourd'hui, on est en pleine crise existentielle du sens dans notre travail. Et en fait, il faut savoir que le cerveau, il est câblé pour faire des tâches qui sont motivantes. Et pour être motivé, il faut du sens. Et le sens, en fait, on va le trouver dans la direction qu'on se donne et non dans la destination. Or, la plupart d'entre nous, on a tendance à se mettre des objectifs, ce qui vaut pour destination. Or, la direction, elle comporte deux points. Et le premier point de départ, ça vient de nous. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça rejoint aussi ce que je pouvais dire tout à l'heure. Quand ça part de nous-mêmes, l'idée aussi, la première chose à faire, en fait, c'est de se reconnecter à soi. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. D'où des exercices comme la méditation, par exemple. Et le deuxième point, qui est extérieur, lui, il est sur la vision, en fait. Sur la destination, en fait, à atteindre, court, moyen, long terme. Mais tout vient de nous, à la base, absolument. Mais je le répète, ce qui vient de nous, c'est le sens qu'on va donner à ce qu'on fait. Et tant que les personnes ne donneront pas de sens, ou n'arriveront pas à trouver un sens dans les tâches qu'elles vont accomplir quotidiennement, à travers leur métier, le bien-être sera déficitaire, malheureusement.
Mais alors, avant de donner la parole à Sophie et à redonner la parole à Léna, Laurent, je vais être provocateur. Est-ce qu'à un moment, ce n'est pas une question d'intellectuel un peu riche, la question du sens ? Il y a plein de gens qui bossent, qui n'ont rien à faire de leur boulot, c'est un boulot pour payer les factures, et le sens, on le trouve dans notre vie personnelle. Est-ce que le sens, on doit le trouver forcément dans notre vie professionnelle, ou fondamentalement, est-ce que ce qui est important, ce n'est pas de trouver un sens à sa vie en général, même si notre boulot nous saoule, et de trouver du sens dans une activité associative, dans notre vie perso, bien dans sûr. L'éducation de nos... D'accord. Ah oui, donc bien tu sûr. Parles bien du sens, mais ce n'est pas forcément le sens au travail.
C'est très, très subjectif, en fait, cette notion de sens. Je pense qu'il y a autant de notions et de visions de sens que d'individus.
D'accord. Bah alors, ça me rassure, parce que je crois que tu parlais que du sens au travail, et je trouve que cette injonction de donner du sens au travail, c'est un petit peu comme le bonheur au travail. Je trouve ça parfois un peu violent.
Alors, oui et non, mais quand même faire du sens, sachant que le boulot, on y passe les trois quarts de notre temps, si on n'a pas de sens dans le travail qu'on exerce quotidiennement, et si c'est important pour nous, parce que comme tu me l'as dit, il y en a très bien qui peuvent aussi très bien vivre avec le fait de « je gagne des mille et des cents, ça c'est le sens que je vais donner à ma vie, peu importe ce que je fais quotidiennement, je suis heureux dans le résultat financier que je peux trouver, parfait. Mais il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais tout le monde ne pense pas non plus comme ça, tu vois.
Non, c'est clair. Mais ce qui est rassurant, Laurent, c'est que justement, chacun doit trouver un petit peu son équilibre entre sa vie privée et sa vie personnelle. Et on revient sur cette question d'équilibre vie privée, vie personnelle, qui va permettre de trouver un sens général moyen qui est positif. On pourrait passer des heures sur la notion de sens, mais on va passer la parole à Sophie et après à Léna qui avait demandé la parole. Et n'hésitez pas d'ailleurs à monter sur le stage si vous voulez réagir ou nous soumettre des réflexions. Sophie, c'est à toi.
Merci. Oui, je crois qu'on pourrait parler pendant des heures à propos de sens, effectivement, et à propos de beaucoup d'autres choses. Trouver le bien-être au travail, C'est tout à fait possible, et même trouver du sens au travail. Et en psychologie positive, on a de plus en plus d'études qui nous montrent qu'il y a des façons de faire qui sont plus simples que d'autres. Par exemple, un des domaines sur lesquels je travaille beaucoup, c'est l'utilisation des forces de caractère. Il faut savoir que quand on utilise plusieurs de ces forces caractères principales au travail et qu'en plus on sait que le supérieur hiérarchique connaît nos forces, eh bien ça favorise énormément le fait de se sentir bien dans son travail. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais là on manque de temps.
Non, c'est clair, en une heure, on peut pas tout balayer. Léna, tu voulais intervenir et après, on donnera la parole à Mamboura qui vient de monter sur le stage. Léna ?
Tout à fait, rapidement. Moi, je suis à moitié d'accord avec ce que tu disais, Gaël, et ainsi que Laurane, dans le sens où je suis d'accord avec le fait que, bien entendu, hein, chacun a la responsabilité de son bien-être, tout part de soi. Je suis forcément d'accord avec ça. Mais je pense que la responsabilité de son bien-être, oui, au travail, elle est tout de même partagée. On sait qu'on ne quitte pas une entreprise, mais on quitte un mauvais manager. Donc moi, je pense que malgré tout, même si chacun a la responsabilité et en général le choix, hein, de pouvoir changer de travail, je pense que c'est au management de créer un contexte propice au bien-être. Et après, chacun effectivement a le choix de rester ou partir, mais je pense que c'est un peu trop, ce serait un peu trop facile de laisser cette entière responsabilité au salarié et de lui dire « si tu n'es pas bien, c'est uniquement de ta faute, hein, entre guillemets. »
Tu sais, Léna, je suis forcément d'accord avec ce que tu dis. Ma réflexion était un peu provocatrice. Cela étant dit, je constate très souvent, mais vraiment très très souvent, que des gens qui ne sont pas dans un contexte de management bienveillant baissent les bras immédiatement. Et bien entendu, l'idéal, c'est que chacun individuellement, on prenne soin de notre bien-être au travail et qu'en plus, on soit dans le cadre d'un management bienveillant qui va générer du bien-être au travail. Pour autant, on a cette tendance quand même, et je l'ai eu en tant que salarié assez souvent, de me dire, si mon management n'est pas bienveillant, c'est foutu et je peux rien faire. Et c'est le sens de mon premier bouquin de management que j'avais écrit, Mon boss est nul, mais je le soigne. C'était pour remonter le moral des gens en disant, même dans le cadre d'un management qui ne va pas générer du bien-être au travail, vous pouvez en générer. Mais Léna, je ne peux être que d'accord avec toi, c'est l'idéal, c'est que ça soit un ensemble. Et à la fois, même quand je suis dans le cadre d'un management qui va prendre soin de mon bien-être au travail, ça ne veut pas dire pour autant que moi, individuellement, je ne dois pas mettre en place des choses qui vont encore plus améliorer mon bien-être. Bref, l'idéal, c'est d'avoir l'ensemble. Alors Simba, tu voulais prendre la parole et après, on va donner la parole au camarade Zuber qui est monté sur le stage. Simba, c'est à toi.
Oui, encore une fois, alors vous allez dire que ça devient répétitif. Léna a dit exactement ce que j'allais dire. En effet, je pense que c'est vraiment une position, en tout cas une responsabilité qui est vraiment, enfin, qui doit être équilibrée et qui doit être partagée. On a à titre personnel, en tant que salarié ou en tant que collaborateur, effectivement une responsabilité intrinsèque, mais on a tout le contexte un peu exogène qui aura nécessairement une importance qui peut être bien plus forte finalement et des répercussions bien plus importantes que nos seuls et uniques choix. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire en complément.
D'accord. Alors, Zuber, avant de te donner la parole, j'ai une bonne nouvelle. Benoît s'est arrêté sur le bord de la route et on devrait pouvoir bien l'entendre. Camarade Benoît, es-tu là ?
Je suis là, vous m'entendez mieux ?
Ah, mais c'est pas content, tant mieux. C'est la perfection absolue. J'ai l'impression que tu me parles à côté de l'oreille gauche.
Ben, c'est le cas. Tourne la tête, tu me vois. Je laisse la place à Zuber.
Ok, Benoît. Zuber, c'est à toi. Tu es monté pour nous partager une expérience ou un conseil ?
Pour poser une question, alors je me pose la question par rapport au bien-être au travail. D'un côté, c'est aussi, est-ce que c'est pas que notre responsabilité ? Je m'explique. Quand on fait connaissance à un groupe d'amis ou à un groupe sociaux, on rentre dans des codes. Et quand on va dans une entreprise, pareil, on doit rentrer dans des codes, on doit rentrer dans un moule. Est-ce que on doit l'accepter ou alors c'est l'entreprise qui doit nous accompagner pour rentrer dans ce moule? Donc c'est C'est un peu bizarre comme question parce que moi, j'ai pas connu, trop connu le monde de l'entreprise et je n'aime pas rentrer dans des moules, dans des cases. Mais le bien-être au travail, c'est ça. J'ai l'impression que est-ce qu'on peut être totalement naturel ? Est-ce qu'on peut être totalement entre soi ?
C'est une bonne question, Zuber. Et avant de donner la parole, alors je ne sais pas, sur le stage, cliquez du métro, du métro. Non, pas, je suis fatigué, moi, déjà. Du micro, si vous voulez répondre à Zuber. Mais j'aimerais, Zuber, te faire une petite citation. C'est que j'adore. À force de vouloir rentrer dans le moule, il faut faire attention de ne pas passer pour une tarte. Et moi, je ne crois pas à cette notion de moule. Je crois que la grande problématique du bien-être au travail, c'est justement de trouver chacun ce qui va nous faire nous sentir bien. Il n'y a pas de règle absolue. Alors ensuite, il y a quelques règles communes. Par exemple, je ne crois pas que le bien-être au travail, ça puisse être de travailler 18 ou 19 heures par jour. Je ne crois pas que le bien-être au travail, ça puisse être de travailler dans une cave sans lumière et sans aération. Bref, enfin, il y a des règles générales. Mais ensuite, je suis persuadé que si on demande à toutes les personnes sur le stage ou même dans l'audience, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien au travail ? On aura presque autant de réponses que de personnes. Enfin, il me semble, les amis coachs, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il y a des règles générales du bien-être au travail ou est-ce que la grande difficulté pour connaître un grand bien-être au travail, c'est justement de trouver ses propres solutions ? Laurent, tu en penses quoi, toi ?
Les deux.
Oh, comment elle se mouille pas, Laurane.
Ben non, mais en fait, même si tout part de toi, d'accord, et je rejoins ce que disait Léna tout à l'heure, en fait, on est, à un moment ou à un autre, on va être aussi être un peu dépendant ou subir ce qui peut se passer autour de nous. Après, libre à nous, enfin, quand je dis libre à nous, avec toute la difficulté que ça peut incomber à la personne, de quitter ce monde-là. Mais ce n'est pas du tout évident. Et si c'était si évident, ben on ne ferait pas notre métier, en fait.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le « c'est pas évident ». Je trouve qu'il y a quand même, et là, je vais encore une fois être provocateur, Laurane. Mmh. Il y a une grande lâcheté, grande lâcheté, notamment des jeunes cadres ayant des bons diplômes, donc bac plus 5 de moins de 40 ans. Je rappelle que le taux de chômage d'un bac plus 5 moins de 40 ans, c'est le plein emploi en France aujourd'hui. Et qu'à un moment, il faut avoir un peu le courage de dire non. Il faut avoir un peu le courage de dire « je refuse ». Il faut avoir un peu le courage de se battre pour nos convictions. Et je trouve qu'en France, on n'a pas toujours ce courage managérial de s'opposer à des situations. On est trop fataliste. Moi, ça m'est arrivé de me faire virer parce que j'avais des convictions. Bah, ça peut arriver, mais c'est ça qui nous grandit, je trouve. Alors Sophie, tu voulais prendre la parole également.
Oui, pardonne-moi, j'étais tellement dans ce que tu disais là maintenant que j'ai un petit peu oublié ce que je voulais dire il y a quelques minutes. Je me situe toujours dans la droite ligne de ce qui est dit. Oui, tu demandais juste avant s'il y avait des règles générales, etc. Alors, dans le prolongement de ce que disait Laurane, je voudrais dire que, évidemment, c'est multifactoriel. Évidemment, il y a toute une partie qui dépend du salarié, il y a une partie qui dépend de son entreprise, etc. Il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent nous guider. Par exemple, ça va vraiment faciliter la vie si on est dans une entreprise dont on partage les valeurs, dans une entreprise dont la culture d'entreprise est explicite et dont on peut représenter les valeurs parce qu'il se trouve que ce sont les nôtres.
C'est vrai, voilà. Sophie, on n'a pas encore parlé des valeurs et c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai que la période a mis ça vraiment en avant parce qu'on avait un peu oublié cette notion de valeur et c'est devenu vraiment quelque chose d'essentiel. Et désolé, je t'ai coupé la parole, Sophie, mais je voulais vraiment mettre une emphase sur le sujet parce qu'on n'en avait pas encore parlé.
Merci Gaël. À vrai dire, il y aurait tellement de choses à dire, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais voilà, je voulais parler de valeur parce que j'étais totalement d'accord avec ce qui a été dit avant sur le sens, sur beaucoup d'autres choses. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé des forces de caractère parce que c'est vraiment un sujet méconnu et qui mérite d'être connu. Et les valeurs, c'est un grand principe qui peut nous guider quand on postule dans une entreprise. Postuler directement dans des entreprises dont on partage les valeurs, ça permet d'avoir beaucoup plus de chances de s'y sentir bien.
Tu as complètement raison. Et avant de donner la parole à Benoît, j'aimerais, si jamais il y a des jeunes collaborateurs et collaboratrices, c'est pas aussi évident de connaître les valeurs que l'on veut porter, les valeurs pour lesquelles on veut travailler. Donc se poser la question intimement sur « mais quelles sont mes valeurs ? Quelles sont les valeurs auxquelles je crois ?» pour lesquels je serais prêt à me battre au sens intellectuel du terme. Il ne s'agit pas d'aller, d'aller à la baston avec un fusil, mais c'est vrai que cette notion de valeur, quand on est jeune collaborateur, moi je me rappelle quand j'avais 22 ans, bah je me posais pas trop cette question. Donc c'est un vrai sujet de réflexion. Benoît, tu souhaitais intervenir?
Donc oui, Zuber, tu m'as fait penser à une réflexion qui était... mon entreprise, tu l'aimes ou tu la quittes. C'était un peu ça. Ça m'a fait rire d'imaginer un peu cette réflexion-là. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis capable de la quitter? Et par rapport à Sophie, c'était le deuxième thème que je voulais aborder tout à l'heure. Et merci de l'avoir relevé. Et malheureusement, on m'entendait pas. Et heureusement qu'on m'entend mieux. C'était effectivement le bonheur dans l'entreprise. Il est dans le partage de ce que l'on défend en commun.
Et Benoît, on t'a reperdu.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein.
Léna, j'ai cru te voir cliquer du micro tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors moi, je rejoins complètement ce que disait Sophie par rapport aux valeurs et en même temps, attention, parce que j'ai pu constater que voilà, les entreprises affichaient certaines valeurs parce que ça fait bien, parce que ça fait vendre et ça permet de recruter. Et ce n'est pas toujours en adéquation, enfin moi c'est ce que j'ai pu constater avec ce que les personnes vivaient au quotidien. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident en postulant de vraiment trouver une totale adéquation avec les valeurs. Quand c'est le cas, c'est très bien, mais ce n'est pas évident. Moi je voulais aussi lancer un petit pavé dans la mare, parce qu'effectivement on parle de bien-être au travail, et je voulais dire attention. Parce qu'il y a eu une injonction à trouver le bonheur au travail, et je voulais qu'on fasse bien cette distinction entre le bien-être, à savoir être dans des bonnes conditions, à trouver du sens, à trouver un manager qui nous propose une vision, etc., et à vraiment chercher le bonheur. Je pense que finalement, il est ailleurs.
Mais merci d'aborder ce sujet, parce que je suis un grand pourfendeur du bonheur au travail, qui est selon moi la pire des injonctions. Et pardon, alors on est vendredi, il est 18h53, j'ai le droit de le dire, une des plus grosses conneries inventées dans les dernières années, la notion de bonheur au travail. Le bonheur, c'est une quête éternelle, et on le sait, la nature humaine, on n'est pas forcément satisfait facilement, et souvent, bah, on se dit « Ah, le bonheur, ça serait d'avoir ça », et puis une fois qu'on l'a, on se dit « Ah, mais c'est peut-être encore quelque chose d'autre », et c'est une course éternelle. Alors que le bien-être, c'est un état, c'est quelque chose, factuellement, le bien-être, bah oui, on est bien. Il n'y a rien qui nous fait souffrir. Et le bien-être au travail, c'est tout simple, c'est le fait d'aller au travail sans que ça génère de la souffrance. Et quand on parle de souffrance, je rappelle quand même qu'en France, on est numéro 2 mondial du burn-out. 10% des salariés, donc là vous êtes un peu plus d'une cinquantaine de personnes, là je vais péter le moral de tout le monde d'un coup, il y en a 5 d'entre vous, donc 10%, qui ont ou vont faire un burn-out. Et donc, parler de bonheur au travail, c'est un petit peu compliqué, alors que travailler sur son bien-être, ça, c'est absolument fondamental, et ça me semble être un moteur absolu. Enfin, je ne pense pas que ni Laura, ni Emmanuel ou Sophie me contrediront sur le sujet. Laura, le bonheur au travail, ça te parle ou pas, toi ?
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Complètement. Il ne faut pas confondre aussi la notion de plaisir et la notion de s'amuser. Hein. On peut travailler avec un certain plaisir qui peut participer à notre bien-être, mais on n'est pas non plus en train de s'amuser. Et comme tu dis si bien, le bonheur, c'est la quête de toute notre vie.
Oui, et puis surtout, je trouve que le travail, bien sûr que c'est important, et je serais mal placé pour vous dire que je ne prends pas un plaisir à travailler, parce que je suis écrivain, je suis conférencier, je fais ces rooms du vendredi. C'est très sympa, mais pour autant, je vais vous poser une petite question à toutes et à tous, même celles qui ne sont pas sur le stage. Fermez les yeux. Donc là, je vous demande, alors pas toi Benoît, si tu as repris le volant, ne ferme pas les yeux, c'est dangereux. Fermez les yeux et imaginez, là on est vendredi, il y a l'euro million, et vous gagnez 100 millions d'euros à l'euro million. 100 millions, bim. Lequel ou laquelle d'entre vous ne change rien, mais absolument rien à sa vie professionnelle. En général, quand je pose cette question dans mes conférences, il y a donc quelques centaines de personnes et il y a toujours une personne qui lève la main pour dire « moi, je ne change rien ». Et généralement, c'est le PDG ou la PDGette qui lève la main. Mais on veut tous changer quelque chose dans notre vie professionnelle à un moment ou à un autre. Et il faut l'assumer de se dire « ouais, bah, le travail, c'est important de se réaliser, mais pour autant, bah, ça peut toujours être mieux. » Et je vois que Marina est montée sur le stage, alors peut-être pour m'engueuler sur mon jeu, je ne sais, sur mon jeu de fermer les yeux et tu gagnes à l'euro-million. Je ne sais pas. Marina, tu as la parole.
Les gens conduisent. Ah, bravo Gaël.
Non, Benoît m'a dit en DM qu'il était sur le parking, donc tout va bien.
Bon, ça va.
Dis-moi Marina.
Non, c'était bien ton histoire de fermer les yeux et de se projeter là-dedans. Moi, ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est normalement, tout le monde doit dire « je change de boulot ». Parce que quand tu deviens millionnaire, tu ne dois plus penser à toi, mais aux autres. C'est-à-dire que tu ne dois plus travailler à ton daily livings, mais tu dois travailler à être dans monter une fondation, aider les gens autour de toi, tu vois, utiliser intelligemment ce que tu viens de gagner pour devenir bienfaiteur soit de ta famille, soit de ton quartier, soit du monde entier si tu as des ambitions très, très humanistes. Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, pour moi, c'est un peu biaisé de poser cette question comme ça, parce que quand on a tellement d'abondance, on parle de l'euro million, hein, t'imagines 280 millions.
Ah ouais, non, on parle de beaucoup d'argent, ouais.
Donc c'est logique qu'on n'ait plus envie de travailler, c'est logique que le travail qu'on fait, même si on l'adore, même s'il nous nourrit, ne soit plus du tout à la bonne échelle. Voilà, c'était
alors,
juste pour te dire ça.
Je suis d'accord et pas d'accord avec toi Marina, et il y a un exemple que je vais te raconter.
Ça me manquait.
Ah mais oui, il faut savoir qu'avec Marina, on se croise de temps en temps sur des rooms et on a des belles discussions. Parce qu'on... Enfin voilà, mais comme avec vous toutes et tous d'ailleurs, j'adore avoir des débats comme ça. C'est un ouvrier, je crois que c'était il y a 5-6 ans, ou 10 ans, enfin peu importe, qui avait gagné 15 millions d'euros au loto. Donc tu imagines, ouvrier à la chaîne, 15 millions d'euros, enfin globalement, ça change ta vie littéralement. Cet ouvrier à la chaîne démissionne le lendemain. Et au bout de 6 mois, figure-toi qu'il s'embêtait tellement, mais tellement, qu'il est revenu travailler, mais à mi-temps. Et c'est là où ça rejoint toute la discussion sur quel est le sens qu'on donne à notre vie. Je te rejoins Marina sur le côté, si tu prends 300 millions... Je pense que, ouais, on a des choses à imaginer, des fondations à créer, etc. Mais ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Et pour autant, on peut avoir une vision et une approche du travail différente qui ne soit pas une approche économique. Parce que j'avais écrit un truc là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on travaille. La première raison du pourquoi on travaille, et je sais que ça va faire hurler peut-être certaines des coachs qui sont sur le stage, mais la première raison, c'est payer nos factures, les amis. La première motivation, payer nos factures. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est un peu triste à rappeler, mais c'est la première raison. Et donc, gagner à l'euro million, ça change ce paradigme-là et ça nous fait approcher notre vie professionnelle différemment. Alors, on va approcher de la fin de cette room parce que Marina, toi qui me connais, je suis un peu un hystérique des horaires. Donc, comme on doit finir à 19h...
Je suis pareil, je ne vais pas te dire le contraire.
Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Laurane, Emmanuel, Léna, Sophie, Simba, Marina et Benoît, je transférerai ton mot de la fin par DM puisqu'on te capte mal. Sur cette notion, j'aimerais bien qu'on donne toutes et tous un petit conseil aux personnes en audience pour bien commencer cette rentrée du bon pied. Laurane, oui, c'est toi qui as la chance de commencer.
Ok, j'avais envie de dire quelque chose tout à l'heure qui était l'origine du mot travail. Alors désolée, je vais pas être très gaie, mais peut-être que vous la connaissez. Ça vient du latin qui s'appelle tripalium, et tripalium c'est un engin de torture. Alors qu'on parle de bien-être au travail, est-ce qu'on n'est pas en train d'opposer deux grands fondements ? Bon, parenthèse refermée. Qu'est-ce que je peux
et à la fois, ma chère Laurane, dans le travail, il y a aussi le travail de l'accouchement qui est généralement hyper douloureux, mais sauf qu'il y a des péridurales et donc on peut amener du bien-être même dans le travail. Et ça te la boucle. Tout... Et bim.
Dixit, celui qui n'a pas accouché, hein, quand même.
Oui, mais qui a eu une mère, enfin qui a toujours une mère qui était sage-femme dans les années 60 avant l'arrivée de la péridurale. Et c'est vrai que cette notion du travail de l'accouchement, et j'en parle dans mes conférences justement, parce que c'est vrai que dans notre culture judéo-chrétienne, la notion de travail est quelque chose qui est lié à la souffrance. Et ça, Léna, il faudrait que je t'en parle, j'ai plein d'anecdotes sur ce sujet, sur le rapport entre le travail de l'accouchement et notre rapport au travail, si vous regardez dans la Bible, enfin, il y a plein d'histoires autour de ça. Donc, ce n'est pas si aberrant que ça, ce petit rapport. Et tu as raison, Léna, tu m'as percé à jour. Je n'ai jamais accouché. C'est vrai. Désolé.
Bon, et sinon, pour la citation, on décide de changer quand on en a marre d'en avoir marre. Voilà. Alors, du principe que quand la goutte n'a pas fait déborder le vase, on ne change pas.
Ouais. Et Laurane, en fait, tu as raison. C'est un moment, c'est quand on se plaint de quelque chose, il faut essayer d'agir pour faire changer les choses. Tu as raison. Emmanuel, est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit conseil à donner?
Moi, j'ai une petite citation. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et là, il faut avancer dans la vie pour ne pas perdre son équilibre de vie personnelle et de vie professionnelle. Et je vous invite vraiment à avoir confiance en vos capacités, parce que nous avons tous des capacités. Et j'ai presque envie de vous dire, j'en suis le témoin vivant. Jamais, il y a un an, je m'étais dit que j'écrirais sur LinkedIn, voilà. Et je vous invite vraiment à aller voir les derniers posts que j'ai faits, qui ont bien fonctionné. Je vous donne des conseils pour renforcer votre mental. Enfin voilà, ce matin, je faisais un petit post qui est très intéressant. Je parlais du justomètre, un outil de la bienveillance au cœur du travail. Voilà, ayez confiance en vous et en vos capacités.
Alors, tu sais qu'Emmanuel, il y a Benoît qui est en train de râler dans son coin parce qu'il ne peut pas parler parce qu'il a une mauvaise connexion, mais la notion d'équilibre était aussi pour lui une notion qui est importante. Et la phrase que tu as citée, c'est une phrase d'Albert Einstein qui bizarrement a fait beaucoup, beaucoup de citations autour de ces sujets. Donc, c'est vrai que la notion d'équilibre, c'est quelque chose de très, très important. Donc, que tu le saches, Benoît te rejoint complètement là-dedans. Léna, mais je t'en prie, Emmanuel, Léna, c'est à toi.
Alors moi, j'aime toujours revenir au basique. Hein. Donc je pense, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de travailler sur soi pour vraiment développer son bien-être de façon générale, pour déjà redonner du sens à sa vie. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, justement d'y insérer le travail et le bien-être s'étendra à tous les domaines.
Bah, c'est bien joli. Alors, les amis, alors Sophie, Simba et Marina, je suis désolé, on arrive à la fin, donc c'est moi qui vais faire le mot de la fin, mais vous reviendrez la semaine prochaine, on va continuer à parler. Moi, mon petit conseil, c'est, ça tient en un mot, c'est optimisme. Et l'optimisme, vous allez me dire, ouais, mais bon, ça fait quand même un an et demi, c'est un peu la galère, comment est-ce qu'on peut être optimiste? Et je pense que les gens confondent trop souvent optimisme et bisounours. Être optimiste, ça ne veut pas dire voir la vie en rose, dire que tout va bien alors que tout va mal. Et je vais vous proposer un nouvel exercice. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de vous faire faire des exercices aujourd'hui. Donc, imaginez-vous, vous montez dans un hélicoptère avec moi, un très très grand hélicoptère. Je regarde combien de personnes on est. Ouais, on est un peu plus d'une quarantaine, donc ça fait du monde. Et choisissez un camp, celui des optimistes ou des pessimistes. Donc, ne me dites pas ce que vous choisissez, mais dites-vous, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste ou plutôt quelqu'un de pessimiste. Et donc, nous partons en hélicoptère. Et je vous précise quelque chose, nous sommes au mois de janvier, il est minuit, et on est au-dessus du lac Léman. Donc, il fait très froid près de la Suisse, très très froid. Donc, je vous rappelle, il y a des optimistes et des pessimistes. Et là, on arrive au-dessus du lac Léman, j'appuie sur un petit bouton. Et là, c'est super sympa, vous avez une bonne surprise. Je vous rappelle, il est minuit, il fait moins 5 degrés, vous tombez toutes et tous dans le lac Léman. Je sais, je pourrais être tout opérateur comme garçon. Et là, en fait, vous avez les pessimistes. Donc, si vous avez choisi ce camp-là, voilà la réaction que vous allez avoir. Il fait nuit, il fait froid, je suis au milieu du lac Léman, je vais mourir, ça ne sert à rien de nager. Un pessimiste va considérer, va regarder de façon froide la situation et se dire « factuellement, je vais crever, donc je ne fais aucun effort ». L'optimiste, si vous avez choisi ce camp-là, il ne va pas se dire « Eh, Châtelain-Berry, il est vraiment sympa, il nous offre un bain de minuit ». Non, vous allez tous me traiter d'abruti d'avoir fait ce cadeau-là, même les optimistes. Par contre, l'optimiste va se dire « Mais qui me dit que je ne suis pas à 3 mètres de la rive ? Qui me dit que si je fais la planche, peut-être qu'il y a un bateau qui va passer ? Qui me dit que Châtelain-Berry m'a fait une vanne toute pourrie, mais il ne va pas repasser avec l'hélicoptère d'ici 2 minutes ? En fait, l'optimiste, ce n'est pas quelqu'un qui va tout voir en rose, c'est quelqu'un qui va se dire, tant qu'il y a de la vie, on peut réussir à sortir de la mouise. Et c'est ça, être optimiste. Et je crois que la solution que l'on devrait avoir pour toute la période qui s'ouvre devant nous, c'est oublions de regarder C8, LCI, enfin toutes les chaînes info, BFM, qui vont nous tirer vers le bas en termes d'optimisme, parce que l'audience, et c'est pas pour critiquer ces chaînes, j'y ai travaillé pendant 20 ans. C'est juste, bah, leur métier, c'est pas nous amener de bonnes nouvelles. Donc travaillons notre propre optimisme en se disant objectivement, bah, quelle que soit notre situation, et c'est ce que tu as très bien dit, Emmanuel, tout à l'heure, sur le côté, eh ben, même quand on est dans des situations désagréables, il faut se dire, ok, où est la fin du tunnel? Comment est-ce que je vais évoluer? Comment est-ce que je vais être optimiste? Et moi, j'aimerais bien finir sur ce mot-là, optimisme, parce que je crois profondément que nous avons beaucoup d'éléments pour retrouver un optimisme qui fera que notre bien-être au travail sera nourri de plus en plus. Eh bien, les amis, le gros bavard que je suis va fermer cette room avec un petit peu de retard. Je suis tellement désolé que Benoît ait eu des problèmes de connexion, parce qu'à chaque fois, c'est très intéressant ce qu'il nous raconte. Alors, je vais remercier 1000 fois les petits points verts, donc qui sont nos modérateurs, Laurane, Emmanuel, Léna, Benoît, celles et ceux qui sont montés sur le stage, 1000 merci Sophie, 1000 merci Simba, 1000 merci Marina de m'avoir fait l'amitié de monter sur le stage. Pour rappel, donc cette room est rediffusée à partir de dimanche sur toutes les plateformes. Et n'hésitez pas, bah, la semaine prochaine, on n'a pas encore défini le thème et on va papoter gentiment sur un autre thème. Et là, ça sera la vraie rentrée. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end, et je vais finir cette room comme je finis tous les podcasts de Happy Work par une phrase que j'adore maintenant, c'est plus que jamais les amis, prenez soin de vous. Et je vais fermer cette room dans très exactement 3, 2, 1.
Vive Bob!
Belle soirée.
Salut. Bonne soirée. Benoît, mille merci, c'est tu me fais le rire de ma journée. Allez, bonne fin de journée à toutes et à tous. Salut les amis. Ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.